Patrice Gautry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste de Lyon Broker Privé. On va parler avec vous de perspectives économiques. Comment vous voyez aujourd'hui, vous, les choses, globalement est-ce qu'on est sur un ralentissement de la croissance mondiale?
Alors, non, pas un ralentissement de la croissance mondiale, plutôt une légère accélération. Donc, nous attendons pour l'année prochaine 3,6% par rapport à 3,3%. Donc, c'est une accélération modeste. Mais ce qui est à noter, c'est que l'essentiel de cette accélération devrait, selon notre scénario, provenir de pays développés et notamment donc des États-Unis, puisque nous pronostiquons une croissance aux alentours de 3%, ce qui veut dire que dans le reste des autres pays développés, la croissance sera beaucoup plus modeste, entre 1 et 1,5%.
Alors c'est vrai que sur les États-Unis, on a eu des questions récurrentes au cours des derniers mois. On a vu aussi le discours de la Réserve fédérale américaine. Quels sont les facteurs pour vous les plus positifs justement sur cette économie américaine ?
Les fondamentaux en termes de consommation et en termes d'investissement, puisqu'en fait aujourd'hui, dès aujourd'hui, en fin d'année 2014, on a une croissance américaine qui est essentiellement dominée en fait et tirée par la croissance domestique, c'est-à-dire la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Donc les fondamentaux, création d'emplois, fiscalité, pouvoir d'achat, sont favorables à la consommation des ménages. Donc on devrait avoir une consommation qui évolue entre 2,5 et 3%. Du côté de l'investissement des entreprises, là aussi, on voit que les carnets de commandes sont plutôt bien remplis, la confiance est plutôt présente, le coût du capital est faible, le coût du travail est faible, le coût de l'énergie est faible. Donc c'est un environnement qui est favorable pour les entreprises en termes d'activité, en termes de bénéfices et en termes d'embauche, en termes d'investissement aussi.
On s'était posé des questions sur l'investissement justement des entreprises, qu'on voyait notamment les grandes entreprises américaines, alors certes, racheter leurs actions, donc c'était bien pour la bourse et les actionnaires, pas forcément effectivement pour l'investissement.
Oui, en fait, ça fait partie d'une stratégie puisque le coût du capital est faible. Les entreprises ont soit le choix d'investir pour elles-mêmes, soit de racheter leurs titres ou soit de racheter leurs concurrents. Et c'est vrai que sur les derniers mois, en fait, on a vu que ces trois stratégies étaient effectivement beaucoup plus fortes. Donc, je ne mettrai pas les trois en concurrence, mais je mettrai plutôt les trois en parallèle en disant mais c'est traduit en fait le même bon environnement du côté des entreprises.
Alors, si on passe de l'autre côté de l'Atlantique en Europe, là, ce n'est pas bien sûr le même scénario. On a eu des craintes, on est sur la thématique de la déflation. C'est-à-dire se poser vraiment une question, vers quoi avance l'Europe, le regard que vous portez sur l'Europe aujourd'hui?
Alors je dirais, pour caricaturer, l'Europe n'avance pas aujourd'hui. Donc les deuxième et troisième trimestres ont été plutôt décevants. Il n'y a pas de véritable promesse d'accélération très très forte donc pour le quatrième trimestre de cette année. Et pour l'an prochain, nous tablons sur une croissance qui serait encore inférieure à 1%. À moins qu'on ait des relais importants, politique monétaire. On voit bien que chaque semaine, M. Draghi nous promet des choses de plus en plus affriolantes. Je dirais, c'est bientôt Noël. Et donc, on va avoir effectivement, probablement, en début d'année prochaine, une banque centrale européenne qui va intervenir sur les marchés obligataires. Un quantitative easing à la méthode américaine est de plus en plus probable. Et de l'autre côté, on a une politique budgétaire qui est en train de s'assouplir. Donc, les freins qui ont été 2012, 2013 et encore un peu 2014, devrait être un peu moins fort puisqu'on a une certaine lecture beaucoup plus flexible des projets et des budgets nationaux. Donc on accepte, on l'a vu avec le cas français, on accepte en fait au niveau européen un déficit budgétaire qui est encore proche de 4,5. Et puis il y a le fameux plan Juncker, donc 300 milliards sur 3 ans. Alors on attend les détails à la mi-décembre de ce plan, mais l'idée essentielle me semble intéressante et le timing serait bon. L'idée essentielle, c'est effectivement de favoriser l'investissement, infrastructure, équipement, nouvelles technologies, la recherche et développement. Ce sont des thèmes sur lesquels effectivement l'Europe est en déficit par rapport aux États-Unis. Donc là, ça vient au bon moment. Si on n'a pas ça, alors effectivement, on est sur une croissance européenne qui est... Ce n'est pas de la récession, ce n'est pas le Japon des pires années, des années 1990, mais c'est une croissance molle et qui n'arrive pas à aller au-delà de 1%.
Alors on pourrait dire qu'on a une vraie divergence aujourd'hui entre ces deux zones, États-Unis et Europe. Quand on se souvient sur l'historique, en tout cas sur les marchés boursiers, on se souvient de la période 94, notamment sur les marchés obligataires, on sait que ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que du coup, on regarde ça avec une certaine prudence, cet écart de croissance?
Alors oui, c'est une grande divergence, divergence de croissance, divergence donc de politique monétaire, vous l'avez signalé, et divergence certainement donc de comportement du côté des marchés financiers. Alors heureusement ou malheureusement, plutôt heureusement je dirais, ça n'est pas la répétition ni de 2004, ni de 1994, ni de 1984, c'est-à-dire on n'a pas de crainte d'inflation, on vit dans un univers où il y a de faibles inflations, et même le scénario de remontée des taux d'intérêt directeurs qu'on peut avoir du côté américain pour l'an prochain est un scénario, je dirais, très très modéré, et ça n'est pas la répétition de 2004, on ne va pas monter tous les mois de 0,25 points de base, mais au contraire, on va monter très, très, très graduellement. On a vu d'ailleurs cette année la communication de la Fed et Mme Yellen changer plusieurs fois en disant, et ça a été difficile pour les marchés financiers de l'interpréter, mais au-delà de ces interventions, de ces changements, c'est le pragmatisme de la Fed qui ressort, donc on ne va pas monter les taux pour ne pas tuer effectivement donc la croissance américaine, on montera que très très progressivement, très graduellement. Donc ça veut dire que les divergences de croissance, les divergences de taux, politique monétaire, mais aussi certainement les divergences en termes de rendement obligataire vont rester importantes entre d'une part les États-Unis et d'autre part le continent européen.
Alors on peut dire aussi que du côté du Japon, là, la politique reste aussi accommodante avec des interrogations tout de même sur cette nouvelle politique économique, hein, ce qu'on appelle les Abenomics, avec notamment les questions sur la TVA. Est-ce qu'aujourd'hui ça marche ou pas?
Alors, il est difficile encore, soyons fair-play avec Abenomics, il est difficile puisqu'en fait de juger dès aujourd'hui le résultat d'Abenomics puisque l'idée essentielle était des réformes de structure. Donc des réformes de structure ne se jugent pas effectivement, rendons justice au Premier ministre japonais sur 2 ou 3 ans, mais sur une longue période. Néanmoins, c'est vrai que, et je pense que la hausse de la TVA était peut-être une erreur de politique monétaire, celle-ci avait été malheureusement faite dans les années 95-96, et les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire en fait, on a une activité domestique qui s'écroule, consommation des ménages qui s'écroule, investissement des entreprises privées qui s'écroule, investissement immobilier qui s'écroule. Donc là, il faut réenchanter le cycle japonais, et on voit bien que M. Abe demande en fait une nouvelle majorité, va relancer certainement un petit programme de relance budgétaire, donc on fait de la relance à tout va, et la Banque centrale va continuer à absorber beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obligations japonaises.
Alors ça nous amène à parler des pays émergents. Et là, on pense à effectivement la Réserve fédérale américaine, puisqu'on a vu sur les marchés, hein, quand il y avait eu des inquiétudes sur des remontées de taux, on a vu ce qui se passait effectivement, les flux, hein, tout de suite, les flux financiers bouger, et au détriment des marchés émergents. Aujourd'hui, on a vraiment des situations assez contrastées dans les pays émergents. Je pense au Brésil qui était en récession. La Chine, on a des questions forcément.
Il n'est pas sûr d'ailleurs que le Brésil soit sorti d'une récession. Et effectivement, comme vous dites, on a une copie émergente qui est la différence des années 2000 d'ailleurs, et pas du tout homogène. La situation chinoise n'est pas la situation indienne, encore moins la situation russe, et pas du tout la situation brésilienne. Donc, bon, en termes de poids, le premier pays émergent, c'est bien entendu la Chine. La Chine, c'est une croissance promise autour de 7%, mais on voit bien qu'en termes d'indicateurs, production de l'énergie par exemple, on a du mal en fait à atteindre ce chiffre donc, de 7%, d'où ces réactions de politique économique qui est d'essayer en fait de changer le modèle qui était précédemment donc axé sur les exportations et la grande industrie se tourne vers de la consommation, vers les services, mais ça va mettre 5 ans, 10 ans avant d'avoir des résultats. Et pendant ce temps-là, les autres pays se réforment, l'Inde, l'Indonésie sont en train de faire des réformes et l'Inde est un réservoir effectivement de population qui continue à augmenter à la différence de la Chine dont la population baisse. Donc on peut avoir effectivement des changements de leadership, on a vu la Chine prééminente ces dernières années, mais peut-être que pour les 5 prochaines années, on aura un leadership plutôt du côté indien que du côté chinois. Les autres zones émergentes, l'Europe émergente en difficulté puisque le problème géopolitique russe et ukrainien n'est toujours pas réglé, les prix du pétrole sont bas, donc on voit bien qu'effectivement c'est un gros problème et géopolitique et économique pour la Russie. Et puis du côté de l'Amérique latine, vous l'avez mentionné, le Brésil, incertitude, on va voir ce que le nouveau gouvernement de Mme Rousseff va faire, mais effectivement on a perdu un peu du lustre des dernières années, puisque l'activité est proche de récession et, je dirais, les équilibres extérieurs, balance courante et déficit budgétaire ne sont pas nécessairement d'amélioration. Donc, petite crainte du côté de l'Amérique latine. Par contre, effectivement, on voit que l'Asie, de toute façon, l'Asie et l'Asie émergente est en train de se structurer comme une zone homogène, avec beaucoup de flux interindustriels, une consommation qui est globalement assez vive.
Le mot de la fin, pour les investisseurs, du coup, c'est toute nouvelle horizon peut-être économique. Ça donne quoi? Ça donne, il faut être plus diversifié. Quelle est la, je dirais,
La leçon de cette année et peut-être de toutes ces années où on a beaucoup de volatilité, une faible croissance, faible rendement, c'est effectivement de jouer sur la diversification. On l'a vu, les actions, mais les obligations ont dû performer. Donc, effectivement, il est plutôt intéressant d'être diversifié. Mais au sein de cette diversification, on peut bien entendu exercer des préférences. Et ce qu'on est en train de dire sur les fondamentaux économiques nous amène à privilégier le marché américain, le marché actions américain, qui n'est pas encore trop cher. Il elle a monté un petit peu en termes de valorisation, mais il n'est pas encore trop cher. Et puis, même les rendements américains, on n'a pas nécessairement peur de la Fed. Donc, oui, il y aura une remontée sur les taux longs américains, mais cette remontée devrait être très, très graduelle. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus, eh bien, on va avoir des revenus américains qui vont être bien supérieurs aux revenus européens. Ce qui veut dire que, troisième conséquence, on va certainement avoir un dollar qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui va continuer à s'apprécier.
Merci, Patrice Gautry, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.